Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance.
Hey, you know what?
Les nouveaux chemins qui sont préparés tous les jours par Tristan Grenassia, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi et Antoine Ravon, à la réalisation cette semaine Nicolas Berger, à la lecture des textes Jean-Louis Jacopin, avec cette semaine la prise de son Nicolas Mathias. À 10h51, ce sera l'heure de retrouver comme tous les jours Géraldine Mosna-Savoie pour ce 2 minutes papillon. Géraldine qui cette semaine vous donnera envie de lire tous les jours le livre d'Arthur Danto intitulé « Ce qu'est l'art » qui vient de paraître dans une traduction française au post-édition et questions théoriques. Comme vous l'entendez, les nouveaux chemins ne sont pas en studio cette semaine mais au bord de la mer Méditerranée. À Tel Aviv, très exactement, nous avons posé nos micros le temps d'une semaine, le temps d'une série d'émissions à l'Institut français de Tel Aviv qui organisait le jeudi 28 mai dernier la première nuit de la philosophie en Israël. Après deux émissions à l'Institut français de Tel Aviv, il est temps de quitter la ville et de quitter la mer pour nous diriger en direction des terres, en Palestine, où nous attend aujourd'hui le philosophe Sari Nusseibeh au centre franco-allemand de Ramallah. Sari Nusseibeh qui, en plus de son engagement politique aux côtés de Yasser Arafat notamment, a mené de front un travail de philosophe et c'est de ce travail qu'il vient nous parler aujourd'hui.
Donc là, vous êtes dans un village qui était dans le district à proprement parler de Jérusalem, mais qui, du fait de la construction du mur et donc de la création des checkpoints, s'est retrouvé de l'autre côté.
Julien Chiappone-Lucchesi, directeur de l'Institut français de Ramallah.
Si, à vol d'oiseau, le centre de Ramallah jusqu'à la vieille ville, c'est à peine 15 km. Mais en fait, l'occupation israélienne fait faire des détours.
On a combien de kilomètres de Tel Aviv ?
Quarantaine. C'est un village qui date d'assez peu en réalité, il a 500 ans peut-être. Ram, qui est un mot en fait plutôt ancien, araméen, auquel on a collé Allah, donc la colline de Dieu. Elle est la capitale de substitution actuellement de l'autorité palestinienne. Elle concentre les ministères, elle concentre aussi un certain nombre non négligeable de sièges, de représentations diplomatiques. L'activité culturelle est assez florissante. C'est une ville vraiment ouverte, festive, mais plutôt avec une espèce d'art de vivre et une jeunesse parfois dorée qui vient de Jérusalem. Ça, c'est peut-être un sujet important aussi. Jérusalem Est est devenue peu à peu une ville silencieuse.
C'est très récent, ces images.
Non, mais vous avez raison. D'abord, il y a eu un boom économique récent qui a permis à des gens d'investir. Deuxièmement, il y a une stabilisation de la situation. Le statu quo, c'est aussi une certaine stabilisation, alors qu'il n'est peut-être pas désirable. Donc on a eu effectivement beaucoup de velléité de construire quand c'est devenu possible. Et vous seriez étonné d'ailleurs des prix, hein, c'est assez cher. Et c'est rien en comparaison avec la Banque de Gaza, où malgré l'état déplorable de la situation, l'immobilier est un des plus chers de la région.
Ah bon ?
Ah oui, oui. Voilà, nous sommes arrivés. Donc bienvenue. Welcome. Ahlan wa sahlan.
Bonjour Sari Nusseibeh. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance qui aujourd'hui sont donc à Ramallah, au centre culturel franco-allemand de Ramallah. On est très content de vous retrouver ici. Vous n'habitez pas à Ramallah ?
Non, j'habite dans ma ville qui est Jérusalem.
Et donc vous êtes venu pour cet entretien et nous vous en remercions.
Moi aussi je vous remercie pour cette invitation.
L'idée de cet entretien était de donner la parole aux philosophes palestiniens que vous êtes. Mais votre activité philosophique ne peut pas être comprise sans votre engagement politique. Les deux chez vous sont intrinsèquement liés. On a le temps de cette émission pour essayer de montrer quels sont les enjeux, l'impact de votre pensée sur votre engagement et vice-versa. Alors on va commencer par vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. D'abord, dans votre itinéraire philosophique, on peut noter que vous êtes allé faire vos études à Oxford, puis ensuite à Harvard, vous avez étudié la philosophie islamique, et vous avez fait le choix, en 78, de revenir, non pas étudier, mais cette fois-ci enseigner, en Cisjordanie, à l'université Bir Zeit. Vous avez enseigné jusqu'en 90. Comment expliquez-vous ce choix de votre part, une fois que vous étiez diplômé, avec un diplôme américain, de revenir enseigner en Cisjordanie? Est-ce que c'était un choix politique de votre part ou c'était pour des raisons philosophiques?
Tout d'abord, il y a un aspect très important qui est l'amour et la passion. C'est plus important que la philosophie ou la politique. Pour moi, c'était primordial. Tout d'abord, l'amour que j'avais, l'amour avec passion pour ma famille, pour ma patrie, pour ma ville. Et pour moi, c'était essentiel, une fois que j'avais mon diplôme, de venir ici servir mon pays, servir mon peuple avec ce diplôme que j'ai acquis. Toujours, la motivation première, ce sont les émotions, ce sont la passion, l'amour que nous avons, et ensuite, le rationnel suit.
Et pourtant, dans les écrits que vous proposez, et qu'on trouve tout récemment en français, par exemple, Une allumette vaut-elle toute notre philosophie, Un nouveau regard sur l'avenir de la Palestine, un petit ouvrage qui regroupe des textes que vous avez prononcés en anglais et qu'on trouve en français aux éditions Flammarion, vous insistez sur ce que vous appelez la voie de la raison. Alors il est amusant de vous voir insister sur l'importance de l'amour et de l'émotion dans vos choix de vie, et par ailleurs intellectuellement d'en appeler à l'utilisation, disons, raisonnable, c'est le cas de le dire, de la raison, notamment dans l'esquisse d'une solution qui viendrait atténuer le conflit israélo-palestinien.
Tout d'abord, la passion, l'amour, les émotions ne sont pas forcément négatives. On peut avoir plusieurs catégories d'émotions. Il y a des émotions qui sont naturellement mauvaises, mais il y a aussi des émotions qui sont positives. Donc, bien sûr, quand j'appelle à la voix de la raison, j'appelle la voix de la raison qui se base, qui se développe sur les émotions positives, non pas sur les émotions négatives. Mais ce que j'ai essayé de dire dans cet ouvrage, qui est une collection de speeches que j'avais fait et de papiers que j'avais écrits, c'est que l'utilisation de la raison et de la voix philosophique et rationnelle parfois ne correspond pas à la réalité.
فعلى سبيل المثال كثير من الأحيان إذا بدك توصلي فكرة من شخص لشخص.
Parfois, quand on essaye de faire passer une idée d'une personne à une autre, on a un canal qui est très clair, qui est logique, mathématique, mais en même temps, l'idée ne passe pas.
لازم تصلي بطرق أخرى. ففي العالم العربي تحديدا احنا كان عندنا مفكرين
dans le monde arabe on avait beaucoup de penseurs, de philosophes qui ont écrit beaucoup sur la nécessité de faire une révolution et de se révolter contre les régimes oppresseurs dans les pays, mais ce sont des choses qui sont restées sur le papier, ça n'a rien changé sur le terrain.
واللي ولع الثوره في العالم العربي عود كبريت.
Mais ce qui a finalement fait exploser la révolution dans le monde arabe, c'est une allumette. Cette allumette, c'était l'expression ou la traduction de la réalité qui régnait sur le terrain, une réalité que malheureusement beaucoup de penseurs, des philosophes ne voyaient pas.
Précisons pour ceux qui ne connaissent pas le livre de quelle allumette il s'agit.
Bien sûr, je parle de l'allumette qu'avait utilisée la personne en Tunisie pour se mettre en feu, qui s'appelait Abu Aziza. Et bien sûr, ça exprime la réalité désespérée des Tunisiens qui n'avaient pas de travail, qui n'avaient pas de dignité, qui n'avaient pas une vie digne en Tunisie.
وهذه مشكلة الفلسفة والفكر إنه والنظرية إنه كتير من الأوقات ما بتهم تماهي الواقع.
C'est ça le problème de la philosophie, de la pensée, de la raison, qui n'arrive pas à communiquer ou à s'identifier avec la réalité.
فعلشان هيك المفكر أنا باعتقادي لازم يكون قريب للناس.
Pour moi, le penseur doit être proche des gens. Et pour être proche des gens, il faut avoir aussi la passion et l'amour. qui lui permettent d'être empathique avec ces gens-là et pouvoir les aider. Sinon, soit il va être dans un monde à part, soit il va avoir aucun impact sur la réalité.
Ce qui est intéressant dans votre cas, Salih Nusaibeh, c'est que parallèlement à votre activité de philosophe, donc je l'ai dit à l'université Bir Zayed jusqu'en 90, et puis ensuite vous avez été le président de l'université Al-Quds, donc de Jérusalem, jusqu'à l'an dernier, en 2014, c'est que vous avez également été impliqué de manière active et pratique dans une tentative de résolution politique du problème palestinien. Vous parliez de votre amour pour la Palestine qui vous avait fait revenir. Celui-ci a pu prendre la forme de combat, et notamment vous avez participé à la rédaction de la déclaration interne d'autonomie palestinienne émise pendant la première intifada, votre but étant de renforcer le Fatah dans les territoires occupés. Et vous avez voulu créer un lien entre la classe universitaire, justement, chargée des négociations, et les militants et les camps des réfugiés. C'est-à-dire qu'y compris de manière dans le domaine politique, et pas simplement en tant qu'intellectuel et philosophe, vous avez voulu essayer de faire communiquer davantage, d'un côté, ce que vous appelez les élites ou les membres de l'administration, et de l'autre, les réfugiés et le reste du peuple.
يعني شوف انا اول ما رجعت على البلد مباشره على الجامعه
en réalité dès mon retour ici en Palestine et dès que j'avais commencé à travailler à Bir Zayed, j'ai eu aussi une activité syndicale. J'étais le premier à monter un syndicat pour les employés de l'université de Bir Zayed parce que je voyais qu'il n'y avait pas de syndicat et que c'était nécessaire.
وبالتالي انا اصبحت رئيس نقابه في جامعه بير زيت.
Par conséquent, je suis devenu le président du syndicat des employés de Bir
Zayed.
Et le but, c'était d'améliorer la situation de travail et de vie pour les employés de l'université. Mon travail dans ce syndicat m'a mis directement dans une confrontation avec l'occupation militaire de la Cisjordanie. Le premier défi, c'était que l'armée israélienne, donc cette occupation militaire, voulait limiter la liberté académique des universités palestiniennes en Cisjordanie.
هون انا كنقابي من جهه في مؤسسه وطنيه
et là j'avais vu que pour moi j'avais d'abord d'une part mon activité syndicale mais d'autre part ma carrière en tant que philosophe. Je trouvais que ces deux aspects étaient essentiels dans ce combat contre le règne militaire sur la Cisjordanie.
فبنفس الوقت اللي ركزت على اعطاء سيمينارات عن الحريه وكتبت كتاب بالعربي.
Donc j'avais donné des séminaires par exemple académiques, j'avais écrit un livre sur la liberté et d'un autre côté j'ai travaillé avec mes collègues dans le syndicat des employés de l'université de Bir Zayed pour trouver des solutions pratiques à ce combat qu'on menait avec l'armée israélienne.
والحريه الاكاديميه سرعان ما ايضا اتركب عليها حريه سياسيه.
Et puis bien sûr ce combat pour la liberté académique, et très vite, on est passé aussi à la liberté politique, naturellement. Donc, en tant que syndicaliste, dans mon travail de syndicaliste, je me suis trouvé tout de suite amené à travailler sur le niveau politique également et à travailler pour la liberté politique.
ضل في عندي الجانبين السياسي والفلسفي الفكري.
C'est depuis ce jour-là, depuis ce temps-là, depuis cette époque-là que j'ai gardé ces deux aspects, ces deux côtés, le côté philosophique et le côté politique.
وباستمرار احاول انه افعل عقلي.
Et toujours j'essayais d'utiliser la raison pour comprendre la réalité et trouver des moyens pour l'améliorer.
وما عندي شيء مقدس لايش ممكن يكون الافضل.
Et bien sûr, je n'ai rien d'acquis en ce qui concerne qu'est-ce qui est mieux. Sauf deux principes que je considère complètement sacrés, c'est la liberté et l'égalité.
وفي البلد هون تحديدا بيني وبين الإسرائيليين بالنسبة لي بيعني هدول المبدئين بيعنوا.
Ces deux principes pour moi ici en tant que Palestinien avec les dans le combat avec les Israéliens, ces deux principes se traduisent soit par une donner les mêmes droits à tous les habitants palestiniens et israéliens dans un même État, soit avoir deux États égaux qui vivent côte à côte.
Mais dans toutes les conditions, رؤيتي هي انه ضرورة انه
mais pour moi bien sûr toujours je pense que il faut qu'on trouve moi et l'autre ou moi et l'israélien doivent trouver quelque chose sur lequel on se met d'accord pour pouvoir vivre ensemble.
France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Adèle Van Rett.
Cet accord, précisément, et vous y revenez longuement dans ce dernier texte de vous, Salih Nusaibeh, consiste, et c'est dans cela sans doute que votre position est très originale et singulière, à inviter les Palestiniens à pouvoir renoncer, peut-être temporairement en tout cas, à la lutte en faveur d'un État palestinien. Au nom de leur dignité. Vous dites aujourd'hui ce qu'il y a de plus important, c'est que les Palestiniens retrouvent une dignité de vie, y compris de vie quotidienne, qu'ils puissent être considérés comme des citoyens dans un État qui ne serait pas le leur, plutôt que de se battre pour un État qui peut-être n'arrivera jamais. Ce qui pose une question, là, pour le coup, philosophiquement passionnante, de savoir comment un individu peut exister dans son identité que lui-même qualifie culturellement, en l'occurrence de Palestinien, dans un État qui lui-même ne le serait pas, le rapport entre un citoyen et son État.
Tout d'abord, je suis un être humain. Et je me définis en tant qu'être humain. Et c'est comme ça que je regarde la réalité dans laquelle je
vis.
Et pour moi, pour l'avenir, ce qui est le plus important, c'est l'individu, pas le groupe.
يعني خلينا نحطها بمعنى آخر أنا
en d'autres mots, on peut dire par exemple que l'État de Palestine
ou أي دولة
ou n'importe quel État, c'est un moyen pour que les individus arrivent à vivre en dignité et ce n'est pas un objectif en soi.
فبالنسبة لي الدولة بحد ذاتها مش هدف بحد ذاته.
Pour moi, l'État, la nation, ce n'est pas un objectif en soi, c'est l'homme qui est l'objectif. Donc pour moi, ce qui est important dans le conflit israélo-palestinien, c'est comment arriver à cet objectif qui est l'homme, qui est la dignité, la liberté des individus. Ensuite, quels sont les moyens pour y arriver? Peut-être deux États, si c'est possible. Ok, si ce n'est pas possible, peut-être un État. Le problème, c'est que pour nous, en tant que Palestiniens, on a déjà proposé toutes les solutions possibles. On a dit, ok, si on peut faire deux États, on peut, ok, allons-y, si c'est un État, mais en réalité, il ne s'est rien passé concrètement. Et jour après jour, on est en train de voir que la solution à deux États est en train de disparaître en tant que solution faisable. Mais la position de la communauté internationale continue à insister et pousse toujours les Palestiniens à continuer les négociations sur la base de la solution à deux États. Alors, pour revenir à la question et à cette position que vous avez rappelé, que j'avais prise dans ce livre en particulier. Moi, je dis, au bout de 50 ans d'occupation, je n'ai pas besoin d'attendre encore 50 ans pour qu'un État devienne deux États. Entre-temps, pendant ces 50 ans que je dois attendre en tant que Palestinien, la position internationale, la position des gens qui défendent la liberté, mais même la position israélienne, doit me fournir tous les droits en tant qu'être humain, ne serait-ce que les droits civiques. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on nous dit « attendez l'État qui va arriver bientôt ». Ne demandez pas vos droits maintenant et attendez cet État qui va arriver.
Donc
moi, ce que je dis, c'est que, ok, on peut attendre. le temps qu'il faut pour arriver à l'État, mais entre-temps, donnons-nous nos droits de base en tant qu'être humain, donnons-nous le droit de bouger, de travailler, de la liberté de mouvement, que les gens de Gaza puissent sortir, travailler ailleurs, que les gens en Cisjordanie puissent circuler librement. Et ensuite, on peut attendre le temps qu'il faut pour arriver à la solution à deux États. Une fois qu'on va acquérir nos droits civiques, avoir une vie normale, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, au bout de ce temps-là, on est prêt à accepter la solution qu'Israël propose, que ce soit deux États ou un État. Donc j'accepte toute solution politique, mais si c'est basé sur la liberté et l'égalité pour les individus, pour tous les individus, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes ou tout ce que vous voulez.
Ce qui veut dire que si on favorise, on privilégie la liberté et l'égalité avant d'autres critères, que quelque part, la plupart des moyens sont bons tant que la fin obtenue est là, à savoir en l'occurrence la liberté et l'égalité. Vous faites référence dans votre livre à des textes du philosophe Hobbes, notamment, en montrant de quelle manière Hobbes montre bien dans le Léviathan qu'il y a un moment où, au nom de la paix, puisque c'est la paix qui importe davantage à Hobbes que la liberté, il est nécessaire pour un citoyen de se défaire de sa liberté et de la remettre entre les mains d'un gouvernant, d'une autorité souveraine, absolument, au nom de la paix. On pourrait faire le parallèle avec la situation. Est-ce que vous proposez, finalement, les Palestiniens se doivent d'accepter d'être représentés par quelqu'un qui ne juge pas être digne d'être leur représentant au nom de leur propre liberté?
En fait, vous avez inversé mon point de vue. Je vais vous expliquer pourquoi.
Hobbes bibni nazarito ala al-atifat aw sha'ur al-khawf ala an-nafs.
La base qu'utilise Hobbes dans sa construction théorique, c'est la peur pour soi.
Ou علشان يحافظ الانسان على نفسه بعطي حق الدفاع عن حاله لحكومه.
Et pour se défendre, l'individu donne le droit de défense à un gouvernement.
انا بامن انه الاساس الاساس اللي هو هوبز بيستعمله للخوف.
Pour moi, cette base qu'utilise Hobbes, qui est la peur, pour moi, ce n'est pas une bonne base pour construire un gouvernement, pour construire un État.
وانا في كتاباتي بطرح نظريه مضاده ماخذها من ابن خلدون.
Et moi, je propose dans mon livre une contre-théorie proposé par Ibn Khaldun qui
اللي هو ايضا بركز على الخوف بس مش الخوف على الذات انما الخوف على الاخر.
Ce philosophe utilise aussi la peur, mais pas la peur pour soi, mais la peur pour l'autre.
وعلى ارضيه هذا الخوف على الاخر بيبني نظريته لبناء المجتمع.
Ensuite, il utilise ça, la peur pour l'autre, comme base pour construire la société. Et là, on revient, si vous voulez, à l'amour et à la passion. Pour moi, l'amour que j'ai pour le peuple palestinien me pousse à proposer des idées qui peuvent paraître parfois pas tout à fait théoriquement saines, mais c'est dans le but de protéger mon peuple que j'aime. C'est pour protéger le peuple de sa peur de l'autre.
في كل أفكاري أفكر بفكر كيف ممكن الحماية لا مش نفسي بس لشعبي للآخر.
Donc toujours je pense comment protéger, mais pas protéger moi, me protéger moi-même, mais protéger mon peuple, protéger l'autre.
فبالنسبة لي مثلا السلام طريق.
Donc pour moi par exemple la paix peut être un moyen pour ça.
بالنسبة لي الدعوة لمفاوضات فتح الآفاق للاستماع لرأي الآخر طريق.
Aussi l'appel à la négociation, écouter les avis des autres, c'est aussi un moyen pour ça.
بس في نهاية المطاف هدفي مش السلام بشكل مطلق إنما العدالة.
Mais in fine pour moi le but ce n'est pas la paix comme valeur absolue mais c'est la justice.
لأنه أنا بعرف العدالة إنها مكونة من عنصرين.
Parce que pour moi la justice est composée de deux choses, de deux composantes qui sont donc la liberté et l'égalité.
فأنا برجع على الأساس.
Donc je reviens encore sur cette base-là, de ces deux principes.
Mais dans les deux cas, que ce soit le cas de Indra Haldun ou de Hobbes, le point commun est que l'État n'est qu'un moyen pour parvenir à une fin. C'est en ce sens que j'entendais la comparaison, même si ça vous permet de préciser que dans votre cas, c'est la justice davantage que la paix qui est importante.
صحيح بس انا اذا بستعين في فكره من عند ابن خلدون ما بيعني انه بتبنى كل نظريته.
Oui, mais moi si j'utilise une idée de Ibn Khaldun, ça ne veut pas dire que j'adopte toute sa théorie.
واذا بطلع على هوبز حتى اتعرف على شيء بحكي اللي هو مهم مش معناته بوافق عليه.
Et si aussi je cite Hobbes ou je regarde un peu comment il construit sa théorie, ça ne veut pas dire que je prends toute sa théorie.
Ibn Khaldun, على سبيل المثال, لما يروح يحكي عن العدالة,
par exemple, Ibn Khaldun, lorsqu'il parle de justice, il n'utilise pas les mêmes les deux composantes que j'utilise moi, qui sont la liberté et l'égalité. Il parle de la justice de manière plus matérielle, plus économique, par exemple.
Hobbes, لما يحكي عن الموضوع أيضا, بيحكي عن عدالة من خلال حفظ السلام الداخلي اللي انا ما بحكي عنه.
Et pour Hobbes, quand il parle de paix ou de justice, il parle en partant de la paix et de la conservation de la paix.
يعني احنا بنستفيد من هدول المفكرين.
Donc si moi j'utilise les idées de ces deux philosophes, ça veut pas dire qu'il faut qu'on prenne tout, il faut aussi qu'on réfléchisse et qu'on apporte aussi de nouvelles choses.
ومن باب وجودي انا بالوضع اللي انا فيه اللي هو كفلسطيني كموجود على هذه الارض تحت الاحتلال تقريبا طول حياتي.
Et pour moi, en tant que Palestinien, qui a vécu pratiquement toute sa vie sous l'occupation, je pense que c'est important de voir différentes théories philosophiques, de regarder chez les penseurs, les philosophes, tout ce qu'on peut prendre comme idée pour améliorer notre quotidien et notre vie.
Toujours dans le même ouvrage, vous posez cette question-là, vous dites quel rôle pour la philosophie dans le monde arabe, et vous proposez de substituer à la phrase qu'on prononce souvent, il faut un philosophe roi pour gouverner notre cité. Vous dites non, en réalité, il faut comprendre qu'il y a un philosophe roi en chacun d'entre nous, qu'on retrouve ici l'importance que vous accordez aux individus dans le cadre d'une société, mais une pensée qui part de l'individu. Comment expliquez-vous, du coup, que vous puissiez parier, c'est quand même un pari, que chacun d'entre nous puisse agir comme un philosophe roi ?
C'est là l'importance de l'éducation et de l'enseignement. Il
ne
faut pas juste espérer qu'il y ait une personne qui soit philosophe roi. Il faut qu'il y ait de l'éducation pour tout le monde, que tout le monde puisse développer ses capacités pour pouvoir aussi améliorer sa réalité.
علشان هيك بالنسبة لإلي زي ما كان من الأساس لأفلاطون بالنسبة لإلي كإنسان مهتم بالفلسفة.
Donc pour moi, ce concept de philosophe roi est très lié, très imbriqué avec l'éducation.
حتى نستطيع إنه نطور في كل إنسان نخلق هذا أو نطور هذا الروح الفلسفية اللي موجود فيه.
Pour qu'on puisse créer ou développer dans chaque individu un esprit philosophique. Qui est déjà quelque part chez lui. Afin que chaque individu dans la société puisse être un leader. Pas juste un leader qui est dans un château ou dans un palais.
Donc il faut devenir philosophe pour devenir leader, c'est ça ?
Oui, mais si vous prenez ma définition de philosophie, pour moi, la philosophie, c'est être capable de se libérer, d'être maître de soi.
Ou
par conséquent, la maîtrise sur la capacité de changer la réalité vers ce qui est mieux. Et ça doit prendre une priorité primordiale dans la vie de chaque individu.
يعني على سبيل المثال ترجع للسياسة هذا بيعني انه يكون مثلا كل اسرائيلي كان رجل اعمال او فلسطيني او كان شو ما كانت مهنته.
Donc pour moi, si on suit cette logique, chaque individu palestinien ou israélien, qu'il soit businessman ou autre, doit avoir comme priorité dans sa vie de trouver, de créer les moyens pour sortir les deux peuples palestiniens et israéliens de la situation dans laquelle ils se trouvent.
وإلا إحنا منعيش كعبيد. إن كان أنا كنت فلسطيني أو إيش ما كنت شو ما كان وظيفتي بكون عبد للواقع اللي أنا فيه.
Sinon, nous sommes des esclaves. Pourquoi? Parce que, quelle que soit ma position, quel que soit mon métier, je suis esclave de la situation dans laquelle je vis.
وبرأيي الفلسفة بتحرر الإنسان حتى يتمكن من تغيير واقعه.
Donc pour moi, la philosophie est libératrice pour l'homme afin qu'il puisse être maître de la réalité et qu'il puisse changer cette réalité.
À ceux qui seraient en train d'esquisser un sourire en vous écoutant, Salim Saïbé, en disant que pour être philosophe, vous êtes sans doute trop idéaliste, en disant que comme si la pensée allait pouvoir changer les choses, vous rétorquez quelque chose par la référence à un texte qui explique très bien en quel sens la parole, la philosophie, mais aussi les histoires peuvent se libérer, pour reprendre vos termes, peuvent permettre la libération d'un statut d'esclave à un statut peut-être de philosophe roi ou de philosophe reine. Il s'agit du texte des Mille et une nuits, la figure de Scheherazade, que je vous propose qu'on écoute tout de suite.
Le roi Shahriar se mit chaque jour à épouser une jeune fille, enfant de prince, de chef d'armée, de commerçant ou de gens du peuple, à la déflorer et à l'exécuter la nuit même. Son vizir avait deux filles d'une très grande beauté, bien prises et de taille achevée. L'aînée s'appelait Scheherazade, la jeune Dunyazade. La première avait dévoré bien des livres. « Par Dieu, mon père, dit Scheherazade, « laisse-moi épouser le roi, ou bien je triompherai et délivrerai les jeunes femmes des griffes du roi, ou bien je suivrai le sort de celles qui ont péri. »« Je te supplie, répondit son père, de ne pas exposer ta vie. »« Il le faut, dit-elle. » Le vizir, son père, l'accompagna chez le roi, qui fut fort satisfait. Lorsqu'il voulut consommer l'union, Scheherazade se mit à pleurer. Il lui demanda ce qu'elle avait. « Sire, dit-elle, j'ai une jeune sœur à laquelle je voudrais faire mes adieux. » Le roi la fit quérir. Dunyazade se présenta, se jeta au cou de sa sœur, puis alla se placer au pied du lit. Le roi se leva et déflora Scheherazade. Après quoi, les époux s'assirent et se mirent à bavarder. Dunyazade dit alors, « Par Dieu, ma sœur, raconte-nous une histoire pour égayer notre veillée. » « Bien volontiers et de tout cœur, répondit Scheherazade, si ce roi aux douces manières le veut bien. » À ces mots, le roi que fuyait le sommeil fut tout joyeux d'écouter un conte.
Et voilà commence l'histoire des histoires que sont les Mille et une nuits. Salim Saïbé, et ce faisant, avec les contes que Scheherazade va raconter nuit après nuit, sauvant sa propre vie, elle va mettre en œuvre ce que vous définissez comme étant un moyen de résistance, une alternative à la violence, au recours aux armes et même à la politique, dans et par l'utilisation des paroles et des mots.
شوف اول شيء قبل ما احكي عن شهرزاد بدي اقول انا بشوف انه
avant de parler de Scheherazade il faut dire que pour moi je considère que pour toute forme de résistance ou de changer la réalité lorsqu'on subit une injustice il est important de connaître l'objectif vers lequel on veut arriver. En fait, il y a un lien très important entre l'objectif qu'on veut atteindre et les moyens qu'on va utiliser.
يعني اذا كان الهدف على سبيل المثال أنا عندي كمشروع تحرري إذا كان الهدف
donc par exemple pour moi si dans mon projet de libération l'objectif c'est la dignité c'est la liberté et donc il faut que j'utilise des moyens qui soient compatibles avec cet objectif que j'ai
هلا هذه خلفية، ولكن بصدف إنه قصة ألف ليلة وليلة تنطبق على هذه النظرية.
C'était pour vous donner un contexte, mais il se trouve que les mille et une nuits aussi rentrent dans ce cadre également.
بس أنا حتى أعطي الشخص حقه، أنا انتبهت لهذا الشيء من زميل لي في بيرزيت اسمه ألبرت غزيريان.
Mais pour être juste, il faut que je dise que moi je remarquais ça à travers un collègue que j'avais à Birzeit qui s'appelle le professeur Albert Agazarian.
فطلعي على القصة ككل. الملك هون، الملك أول شيء هو أضر في نفسه، الملك المسؤول.
Mais tout d'abord, si on regarde le roi lui-même dans l'histoire, il a aussi été impacté lui-même.
لأنه تحول لهالشيطان هذا بعد ما شاف كيف مرته خانته.
Parce qu'en fait, il est devenu une sorte de diable lorsqu'il a vu sa femme le trahir.
فهو بالتالي كان مغبون.
Donc lui, il avait aussi subi une injustice de cette infidélité de sa femme.
OK, فهو تحول وصار هو طاغية.
Donc il est devenu oppresseur. Il s'est transformé en oppresseur.
وصار يبطش في النساء واحدة ورا الأخرى بعد ما ينال منهم اللي بده إياه.
Et il opprimait, il tuait les femmes les unes après les autres une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait d'elles.
هلا ممكن تفكري حتى تغيري الواقع.
On peut penser que pour changer la réalité, on peut imaginer que quelqu'un entre dans sa chambre, dans la chambre du roi et le tue.
ممكن يكون ابن عم له، ممكن يكون وزيره، ممكن يكون.
On peut imaginer n'importe quelle personne, que ce soit son cousin, son vizir, le père d'une des filles victimes de ce roi qui va s'introduire dans sa chambre, dans sa pièce et le poignarder dans le dos.
بس في هذه الحالة بيستمر الوضع غير المستقر.
Mais si on imagine ce cas, la situation d'instabilité va se prolonger et continuer.
الطريقة الثانية كانت هي طريقة رواية القصص.
L'autre moyen c'était par le storytelling, le conter les histoires.
وفي نهاية القصة اللي بيحصل إنه الملك بحب البنت والبنت الملك وبتجوزوا.
Et à la fin de l'histoire, le roi va tomber amoureux de la fille et aussi la fille va tomber amoureuse du roi et ils vont se marier. Il n'y a pas coulé de sang, il n'y a pas de poignardage, mais il y a de l'amour. Et au niveau du leadership, on a une rencontre entre les gens qui ont subi une injustice d'un côté et les gens qui ont subi aussi une injustice, mais d'une autre façon. Si on veut mettre ça en application sur le conflit israélo-palestinien, on peut prendre plusieurs aspects pour faire ça. Mais ce que j'essaie de dire, c'est in fine, c'est qu'il faut qu'on trouve un moyen pour vivre ensemble. Avec égalité entre nous.
La morale que vous tirez aussi de ce conte, c'est que finalement, la façon qu'a Scheherazade de se libérer du joug sous lequel elle est, c'est de ne pas en devenant plus forte que son oppresseur. Et surtout, ça montre bien que l'oppresseur lui-même n'est pas toujours le plus fort. Et donc, cette surenchère de l'oppression n'aboutit jamais à la solution recherchée.
Il y a différentes façons de voir cet exemple ou cette
histoire. On peut voir cette histoire ou cet exemple de plusieurs manières.
إذا كنت شكاكة زي بتشكي إنه نهاية القصة المرة اللي بتطلع أشطر وأقوى.
Si vous êtes comme moi, vous êtes toujours soupçonneuse, vous allez croire qu'à la fin c'est la femme qui est sortie la plus forte de cette histoire.
Et donc pour vous, la femme représenterait la Palestine aujourd'hui?
هل المرأة هي فلسطين اليوم؟
احنا الوضع تبعنا تقريبا مشابه، بدي احكي لك كيف.
La situation pour nous est presque la même. Je vais vous dire pourquoi.
هيك انا بتخيل، بحكي لك كيف انا بتخيل.
Je vais vous raconter juste ce que moi je m'imagine.
في طوشة، ناس كتار، واحد دفش بواحد وبده يتقتلوا مع بعض.
Vous imaginez qu'il y a un grand fou, les gens commencent à pousser les uns les autres et puis il y en a deux qui vont se pousser et qui vont commencer à se bagarrer.
بصيروا بده يتقتلوا.
Ils veulent vraiment en arriver aux mains.
واحد برمي الثاني على الارض لانه اقوى.
Il y en a un qui est plus fort et il prend l'autre et il le jette par terre.
اللي على الارض بصير يفعفص ويتلوى بده يطلع وبده يضرب اللي فوقه.
Et la personne qui est par terre, donc il va essayer tout ce qui est possible pour se lever, pour se relever et pour refrapper la personne qu'il avait posée par terre. Mais la personne qui est par-dessus est plus forte et du coup, elle maintient la personne qui est en bas par terre. Donc si on regarde peut-être d'un certain côté, la personne qui est en dessus est plus forte que la personne qui est en dessous. Mais moi je me pose la question, qui est vraiment le plus fort entre les deux ? Et la réponse que je me propose, c'est que la personne qui est en bas est plus forte, parce qu'elle a une alternative, alors que la personne qui est en dessous n'a pas d'alternative. La force appartient à celui qui a l'alternative. Je vais vous expliquer pourquoi.
Celui qui est en dessous, إذا قام إيديه عن اللي تحته ينط عليه ويشقلبه.
La personne qui est en haut, si elle retire ses bras, si elle retire ses mains, elle a peur que l'autre personne le renverse.
فالفوق هو سجين اللي تحته.
Donc quelque part, il est prisonnier de celui qui est en bas de lui.
وبعاني من الخوف هو.
Et il souffre de peur. Il a peur pour lui.
C'est la dialectique du maître et de l'esclave.
آه.
هذا برضو.
الدialectique مزبوط. صحيح.
العبد والسيد.
صحيح.
Oui,
بينما اللي تحت عنده خيار.
La personne qui est donc en bas, il a l'option soit de résister, soit de se calmer. S'il se calme, il va commencer à se dire, mais pourquoi il y a une personne qui est en dessous de moi ?
Et
il va essayer d'utiliser d'autres moyens pour s'approprier cette personne. Par exemple, il va lui raconter une histoire. Il va lui faire divertissement. Il va essayer de divertir son attention. Il va dire, mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu es en dessous de moi là ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Il peut lui dire, tiens, on est fatigués là, tous les deux. Pourquoi on n'irait pas boire un café ensemble ou fumer de narguilé ? Donc s'il arrive à changer la vie de la personne, de l'autre personne qui est donc en rouge, il aurait réussi à s'approprier cette personne.
شوفي شهرزاد واحدة كانوا خلصوا البنات في البلد خلص عليهم كل الملك كلهم.
Vous voyez Shahrazad, si elle avait pas fait ce qu'elle avait fait, le roi aurait tué, il aurait fini toutes les filles dans la ville.
أول يوم أجته على التخت اغتصبها.
Le premier jour qu'elle est arrivée dans sa chambre, il l'a violée.
كان مفروض على وجه الصبح يقتلها.
Et le lendemain matin, au petit matin, il devait la tuer, l'exécuter.
يعني الملك فوق وهي تحت.
Donc le roi est en haut et elle est en bas.
في نهاية القصة.
À la fin de l'histoire, la situation a changé. Et ils sont ensemble. Et l'État a changé. Et tout le monde dans cet État, dans ce royaume, vivait en harmonie ensemble. Mais la question, c'est qui était plus malin entre les deux ? Le roi ? Ou la fille qui a réussi à s'approprier le roi. Et ici, on a un jeu de mots, puisque roi en arabe, c'est celui qui est propriétaire. Donc il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Et il faut qu'on rentre cette manière de réfléchir dans notre cadre de réflexion politique. Et c'est une raison pour laquelle la résistance non violente est importante et primordiale. On peut trouver beaucoup d'autres raisons qui nous poussent vers la résistance non violente, et ça c'en est une.
Comment expliquer cependant à des individus qui ne sont pas dans les conditions suffisantes pour philosopher, puisque vous parliez tout à l'heure du philosophe roi qui est en chacun d'entre nous, pour dialoguer pour dire à son oppresseur qui est en train de l'écraser sur le sol que peut-être on peut aller boire un café ou fumer le narguilé, celui qui vous rétorquerait que bien, on peut parler d'amour de la nation, d'amour de son prochain, de dimension positive du dialogue, mais certaines situations sont tellement oppressantes que ce que vous dites peut paraître utopique ou détaché de toute réalité matérielle. Est-ce que le philosophe doit être un peu utopiste pour essayer de faire avancer les choses ?
Je vais vous raconter une autre histoire alors.
كان في فترة ما
à une époque, lorsqu'on traversait la frontière avec la Jordanie pour voyager, donc le pont qui sépare sur le Jourdain, l'armée nous obligeait à nous déshabiller complètement. Donc le soldat, il nous emmenait dans une pièce, il nous disait, bon, enlevez votre chemise, enlevez votre chemise, enlevez votre chemise, enlevez votre pantalon, enlevez vos souliers, enlevez vos chaussettes. On peut voir ça comme une tentative ou un essai de nous humilier. On peut voir ça aussi comme une procédure sécuritaire. Mais nous, on voyait ça comme un moyen de nous humilier.
Ok. Mais
en fait, moi, je me retrouve dans une pièce fermée avec un soldat. Son rôle, c'est de m'humilier.
Il
me dit d'enlever ma chemise. Enlève les souliers. Mais moi, avant même qu'il ne me le dise, j'enlève ma ceinture et je enlève tout ce que j'ai sur moi. Le soldat va dire non, arrête-toi, ne fais pas ça. J'ai donc renversé la situation d'une humiliation envers moi vers une humiliation envers lui en tant qu'être humain. Je peux vous dire que toute personne palestinienne qui essaye de lutter dans ce genre de situation et philosophe roi de cette manière. Ça peut être, par exemple, lorsqu'on nous arrête sur les checkpoints. On vous arrête et puis vous allez sortir un livre, vous allez commencer à lire. Alors que le soldat, il est sous le soleil brûlant. Alors que nous, on est en train de lire tranquillement. On peut être aussi le cas d'un prisonnier qui est en train de subir un interrogatoire. Normalement, on est dans une petite cellule. On est prisonnier et la personne qui nous interroge est libre. C'est ce que vous allez croire. Vous allez croire qu'il est libre, mais moi, je suis emprisonné.
Donc
lui, il est en haut, moi, je suis en bas.
Il est le malik, il est Shahrazad.
Lui, il est le roi, moi je suis chez Razad. Mais en réalité, on nous sommes dans une même pièce pour l'interrogatoire. Et il y a une sorte de combat, de bataille entre nous. Lui, il utilise beaucoup de moyens différents. Ça peut être corporel, ça peut être psychique, ou ça peut être par la raison. Lui, il est emprisonné aussi, il est prisonnier, parce qu'il a un objectif, c'est de tirer quelque chose du prisonnier. Mais le prisonnier, il a une alternative, il a une option. Le philosophe, il a aussi cette option, cette alternative. Il peut toujours dire non.
Et
le philosophe, il apprend toujours à dire non. Et donc c'est lui qui gagne toujours. C'est lui qui est libre. Ce n'est pas le bourreau, mais c'est le prisonnier.
Vous aussi, vous êtes libre, Salih Nusaybe. Vous êtes libre de continuer à rester, discuter avec nous, de partir à boire un café et fumer le narguilé.
Est-ce que vous avez le narguilé ici?
Allons en chercher un. En tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé aujourd'hui et merci à vous d'avoir assisté à cette discussion. Vous pouvez l'applaudir.
Je vous remercie. Thank you.
فكر نفسك دبر عيشتنا صار الجحيم شو هالعيشة
ما غصيب شو هالعيشة لا صحة ولا تعليم شو هالعيشة ما غزيم لا صحة ولا تعليم
وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صار جحيم شو هالعيشي
غزيم
لا صحة
تعليم
شو هالعيشي
غزيم
لا صحة
ولا تعليم
وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صار جحيم
Les nouveaux chemins de la connaissance. Encore deux minutes, papillon, il est l'heure de retrouver comme tous les jours Géraldine Mostasavoie qui vous donne envie de lire l'ouvrage d'Arthur Dantou qui vient de paraître en français, Ce qu'est l'art.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Poursuite aujourd'hui de notre semaine pour une anthologie de l'art à l'occasion de la parution de Ce qu'est l'art du philosophe américain Arthur Dantou au post-édition et aux éditions Questions Théoriques. L'objet et l'enjeu de ce dernier ouvrage d'Arthur Dantou, c'est de définir l'œuvre d'art. Et ça, malgré la multiplicité des formes artistiques et la multiplication des discours des artistes aujourd'hui. Alors je l'ai dit hier, pour Dantou, seule la signification est le trait commun à toutes les œuvres. Qu'elles soient figuratives, abstraites, imitatives ou faites d'objets du quotidien, chaque œuvre a une signification incarnée, liée à la matière comme l'âme liée au corps. C'est donc ici qu'il faut parler du photographe Edward Muybridge, auquel s'attache Dantou dans ce texte. À la fin du XIXe siècle, le photographe a décomposé le mouvement des corps à travers des clichés. Celui des humains, des chevaux et même de bisons. Avec cette vérité visuelle, la photographie atteignait enfin le but suprême de l'art comme imitation du réel. Mais il y avait quand même un problème avec cette vérité, c'est que quand on regarde un cheval galoper, on ne perçoit jamais son corps en décomposition. L'essentiel de ce que montre un corps ne réside pas dans ses diverses expressions physiques mises bout à bout, mais plutôt dans ce qui les lie, dans ce qui en assure les transitions. La photographie a pu apparaître comme l'aboutissement de plusieurs siècles d'art défini par l'imitation du réel, mais elle a en fait ouvert le chemin à l'idée d'une signification incarnée qui se regarde. Les ready-made de Duchamp sont bien une copie parfaite du réel, mais ils sont des œuvres d'art parce qu'ils atteignent une vérité non pas visuelle, mais une vérité optique, perçue par un spectateur. Là est toute la nuance que Dantou met au jour. Je rappelle donc le titre de son ouvrage, Ce qu'est l'art, paru aux post-éditions et aux éditions Questions Théoriques, et dont nous continuerons la découverte demain.
Merci beaucoup Géraldine. On se retrouve demain pour la suite et fin de cette série d'émissions enregistrées en Israël. Demain, retour à l'Institut français de Tel Aviv pour évoquer la pensée de Lévinas, en compagnie de la philosophe Joëlle Ancel et de la traductrice de Lévinas en hébreu, Rama Ayalon. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales, cinématographiques concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la podcaster, c'est-à-dire la télécharger, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter où les Nouveaux Chemins mettent en ligne quotidiennement l'émission du jour. Merci à Julien Caponnet-Lucchesi de l'Institut franco-allemand de Ramallah qui a permis cette émission. À Chorouk Altamimi pour son assistance technique, ainsi qu'à Hani Tahan pour son travail d'interprète. Et merci, comme chaque jour, à Olivier Rubinstein et Tila Rudel de l'Institut français de Tel Aviv. Merci à Romain Couturier pour les recherches discographiques, Antoine Ravon pour l'organisation de ces émissions israéliennes, et merci à Claude Agnès Marcel et à Virginie Noël de la communication de France Culture pour la coordination de ces émissions. Merci évidemment à toute l'équipe des Nouveaux Chemins pour leur travail préparatoire comme chaque semaine. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54, c'est l'heure de retrouver Christophe Onodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.